des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de l'art, de l'œuvre d'art, qui a souvent nourri la littérature et qui l'a peut-être même fondée, puisque la première grande description de la littérature occidentale est ce qu'on appelle une ekphrasis, une description d'œuvre d'art, c'est celle faite par Homère du bouclier d'Achille au chant 18 de l'Iliade. Une description d'œuvre d'art qui permet, par la puissance, par le jeu des mots, de recréer cet objet sous les yeux du lecteur, et donc à la littérature d'accéder au fond elle-même, par cette description, au statut d'œuvre d'art. Ce lien entre la littérature et l'œuvre d'art, qui se retrouve aussi dans le célèbre précepte d'Horace, « Ut pictura poesis », « La poésie est comme la peinture », ou dans le fait que la plupart des écrivains du XIXe siècle furent aussi des critiques d'art, de Diderot, là on est au XVIIIe, mais à Gautier, en passant par Baudelaire, un lien que l'on retrouve aujourd'hui vérifié, lien entre la littérature et l'art, par la publication de deux livres dont les auteurs auront certainement bien des choses à se dire, malgré la différence formelle de leurs livres. La légèreté de l'auteur très arty de Charlie Hebdo, Catherine Meurice, et Histoire d'œil de l'historien d'art Philippe Costamagna. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
Alors vous êtes diplômée de l'école Estienne et des arts décoratifs, vous êtes l'une des plumes de Charlie Hebdo, on vous doit un album de bande dessinée sur les grands écrivains, mes hommes de lettres, que vous aviez repeint un peu comme des stars de rock hein, à l'époque, c'était ça?
Oui, oui, c'est ça, c'était une sorte de Lagarde et Michard en plus rigolo, en plus décontracté, mais avec autant d'amour.
Voilà, beaucoup d'amour. On vous doit aussi le livre « Le pont des arts » qui s'intéressait sous la forme de micro-récits dessinés au rapport tumultueux, écriviez-vous, entre peintre et écrivain. On passait le temps avec Cézanne, avec Picasso, avec Zola ou avec Proust. Vous publiez aujourd'hui « La légèreté » qui prend la forme d'une bande dessinée qui commence le matin du 7 janvier 2015. Vous êtes en retard à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, dont vous avez rejoint l'équipe 10 ans auparavant. Retard qui vous a ironiquement sauvé la vie. C'est ainsi que commence « La légèreté » qui raconte les mois qui ont suivi les attentats, le lent et douloureux retour à la vie après l'insoutenable et qui pose une question de fond d'abord. Comment peut-on continuer à dessiner après les attentats? Et puis qui a la particularité, finalement, et c'est là que l'art surgit, pointe le bout de son joli nez, d'être totalement centré sur l'art, puisque par instinct de conservation, peut-être, vous décidez de voyager pour retrouver cette légèreté, cette beauté, à la rencontre des chefs-d'œuvre. Bref, de vous confronter à l'art pour retrouver la beauté comme un antidote à l'horreur, c'est votre expression, du moins une forme de légèreté perdue. Comment la question de la légèreté, Catherine Meurice, s'articule-t-elle avec la notion d'art? Pourquoi c'est passé par l'art, finalement, ce retour après des attentats terribles?
C'est vrai que c'était très instinctif, en vérité. Vous parliez tout à l'heure de mes ouvrages précédents, et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'art dans mes bandes dessinées, alors avec humour, mais je n'employais pas le mot beauté, ou alors je mettais ce mot dans la bouche de Baudelaire, etc. Je les citais, je les mettais en scène, je faisais mon petit théâtre, mes petites comédies avec eux. Mais je n'utilisais pas ce mot pour moi, je le trouvais peut-être un peu pompeux. Enfin, là, oui, après le 7 janvier, j'ai pris ce mot très au sérieux. Voilà, je me suis accrochée à ce mot et c'est tout à la fin de mon album où je parle, voilà, je m'accroche à ce mot beauté, je vais la chercher à Rome, à la Villa Médicis, etc. Et c'est tout à la fin de l'album que le mot légèreté arrive en fait, parce que je me rends compte à la fin du livre que c'est en allant chercher la beauté que je peux retrouver un peu de légèreté, que je peux m'élever un petit peu. Voilà, ce voyage à Rome me permet de prendre mon envol.
Et instinctivement, vous saviez que ce retour à la vie allait passer par l'œuvre d'art, en tout cas, que vous vouliez explorer cette piste?
Alors, je ne le savais pas, mais c'est venu à moi, en quelque sorte, parce que ce que j'explique dans l'album, c'est que le choc du 7 janvier m'a fait perdre de la mémoire et beaucoup de facultés intellectuelles, et je me suis retrouvée comme une page blanche, en fait. Ayant perdu la mémoire, j'avais perdu tout ce que je savais de l'histoire de l'art, donc je ne savais plus qui étaient les peintres, ce qu'ils avaient fait. C'était terrifiant, d'ailleurs, de faire ce constat. Donc, je me suis retrouvée face aux œuvres d'art dans un état de virginité, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était une sorte d'état de grâce, mais au moment où j'étais face à ces œuvres, j'étais perdue et je me suis retrouvée grâce à elle.
J'espère qu'il vous a aidé à retrouver un peu la mémoire aussi. Philippe Costamagna, qui est à votre gauche, Catherine Meurice, qui publie Histoire d'œil chez Grasset. La légèreté, c'est chez Dargaud, hein, je ne l'ai pas mentionné encore, donc je le fais. Philippe Costamagna, vous êtes directeur du Palais Fesch, le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Vous êtes historien d'art, vous êtes spécialiste de la peinture florentine du XVIe siècle. Et surtout, je dis surtout, vous êtes œil.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'un œil ? C'est un peu comme un nez en parfumerie, vous me direz si on peut oser la comparaison. Parfois, vous osez vous-même, donc j'y vais. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la reconnaissance par l'œil, hein, par l'émotion esthétique qui se transmet à lui via son œil, l'organe de la vue, et qui est capable, vous êtes quelques-uns au monde, de reconnaître immédiatement, ou presque, mais vous allez nous raconter, pourquoi tel tableau doit être attribué à Bronzino ou à Pontormo, puisque ce sont deux peintres que vous connaissez très bien. Et dans ce livre, Histoire d'œil, alors c'est pas seulement un récit sur ce métier, c'est un récit aussi sur la formation de l'historien d'art, c'est un regard surtout offert au lecteur sur les coulisses de ce monde fermé, celui de l'art, dont vous nous rendez la complexité, le charme, la complicité avec la littérature aussi, puisque Stendhal, Homère, vous comparez au cyclope Polyphème, celui qui n'avait donc qu'un œil, ne sont jamais loin, les écrivains ne sont jamais loin. Et puis il y a ce titre, très beau titre d'ailleurs, avec une faute volontaire, Histoire d'œil au pluriel, œil avec un S. Et est-ce que c'est un clin d'œil, si j'ose le jeu de mots, à l'histoire de l'œil de Georges Bataille ?
Non. En fait, c'est un métier, effectivement, peu connu, mais qui a été révélé à mon éditeur, à Charles Danzig, en allant visiter l'exposition Bronzino, comme moi j'ai découvert un Bronzino, et il dit, il faut parler de ce métier.
Alors vous avez découvert un Bronzino, on aura le temps d'y revenir, mais et vous avez, donc ce tableau n'était attribué à personne.
Absolument. Non, il était attribué à un peintre florentin du XVIIe siècle qui s'appelait Comodi, mais peu importe.
Voilà, mais il n'était pas en majesté.
Non, et surtout, il n'était pas un siècle plus tôt par un des plus grands peintres florentins du XVIe siècle qui s'appelle Bronzino.
Et vous arrivez, vous dites, bah oui, non. C'est...
Voilà, bah, on en reparlera, effectivement.
Voilà, mais c'est ça votre métier, pour qu'on comprenne. Et bien là, vous avez un Bronzino, vous ne le saviez pas.
C'est vrai que
Catherine Meurice. Ouais.
Catherine Meurice ressemble à un portrait de Bronzino.
Ah oui, ça,
ah bah très bien.
C'est pas plus rond un Bronzino.
Il y a un très très beau portrait de Bronzino de Laura Battifieri, qui est la grande poétesse du XVIe siècle, et vous lui ressemblez
Et ça me choque. Ça enchante votre journée.
Mais oui, mais voilà. Je sais que Cavada me comparait à un Modigliani parce que j'avais les joues creuses, mais.
Voilà.
Mais là, non, vraiment, je.
Mais donc, non, ce n'est aucune référence à Bataille, malheureusement. C'est vraiment ce métier qui existe et qu'on appellerait en français attributionniste, ce qui est absolument affreux.
Merci en tout cas à tous les deux de participer à cette émission qui tâchera de voir comment l'œuvre d'art parle à la littérature, parle aux écrivains et comment ceux-ci, réciproquement, font parler l'art, les œuvres d'art et en véhiculent l'enchantement finalement en direction du lecteur. Alors, je vous ai réunis parce que vos deux livres sont bâtis autour de la question de l'œuvre d'art, mais aussi parce qu'ils sont pleins de littérature. Notamment, ils placent en leur centre un écrivain que vous citez tous les deux. Et cet écrivain, c'est Stendhal. Alors, vos deux livres, non seulement l'évoquent, mais ils évoquent une maladie dont il est, Stendhal, le responsable. Baptisé cette maladie le syndrome de Stendhal, je vous cite Philippe Costamagna. Il a lu Giorgio Vasari, Luigi Lanzi, puis il se promène et après avoir appris, il apprécie. Il dispense un savoir qui aide l'appréciation. Son histoire de la peinture en Italie, Rome, Naples et Florence, les promenades dans Rome sont constitutives de cette nouvelle manière de se rapporter aux œuvres. Et là, vous le citez. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés, écrit-il, dans Rome, Naples et Florence. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Non seulement le sujet explique ce qu'il voit, mais il dit aussi ce qu'il ressent et il transmet la faculté de ressentir. Et en 89, une psychiatre italienne, Graziella Magherini, propose d'appeler le syndrome de Stendhal ce cas qu'elle a observé chez les touristes américains en visite dans les musées de Florence. Je m'arrête là et je me tourne vers vous, Catherine Meurice, puisque vous partez précisément après le 7 janvier en direction de Rome et de la Villa Médicis en se disant « Je veux ressentir le syndrome de Stendhal. Alors je voudrais que vous m'expliquiez un peu pourquoi ce syndrome-là, Catherine Meurice, vous le vouliez, et Philippe Costamagna, pourquoi il est si fondamental aussi en histoire de l'art.
Alors je le voulais, alors je ne suis pas allée à Florence pour l'avoir, parce que c'est bien à Florence que Stendhal a eu cet évanouissement. Moi je voulais Rome, parce que c'est l'archétype de la beauté, et je voulais la Villa Médicis.
Les Florentins qui nous écoutent vont bondir.
Non, et puis je voulais ce syndrome de Stendhal, ne serait-ce que parce qu'il y a le nom Stendhal dans cette expression. Déjà, je me sentais un peu sauvée.
Mais pourquoi l'importance du nom?
Oui, de l'identité, en fait. Je cherchais à retrouver mon identité de dessinatrice et j'ai cherché à retrouver mon nom. Et donc, pour cela, je suis passée par le nom des autres, en fait. Et pour revenir à donc cette quête du syndrome de Stendhal, elle est peut-être naïve, mais je voulais un choc esthétique qui puisse annuler le choc du 7 janvier. Je parle du syndrome du 7 janvier qui serait annulé par le syndrome de Stendhal. Je cherchais à me sauver, en quelque sorte, et j'avais vaguement le souvenir très lointain, puisque là j'avais perdu la mémoire, comme je le disais tout à l'heure, mais il me semblait bien que l'art pouvait sauver. Je crois d'ailleurs que c'est une citation de Dostoïevski. L'art sauvera le monde.
La beauté sauvera le monde.
C'est Philippe Lanson qui a fait la préface de l'album, qui m'avait rappelé cette phrase-là. Et voilà, donc j'ai cherché à tout prix le syndrome de Stendhal, et ce que je raconte dans le livre, j'en m'en rends compte, je m'en suis rendu compte en réalisant cet album, parce que finalement j'ai vécu le syndrome de Stendhal à l'envers, c'est-à-dire que l'évanouissement, je l'ai eu non pas face à la beauté, mais face à l'horreur le 7 janvier. Et quand je sors de cet évanouissement, quand je me réveille, je suis dans la beauté, je cherche la beauté. Et je n'aurai pas le syndrome de Stendhal. Je ne vais pas m'évanouir une seconde fois, surtout pas. Je vais rester attentive au moindre signe de beauté. C'est ce que j'explique vraiment dans mon livre.
Philippe Costamagna.
Pour arriver à la légèreté.
Voilà. Oui, exactement. Catherine Meurice disait qu'elle cherchait un nom, que le nom Stendhal aussi, comme d'autres ont rêvé sur Mandalay ou sur des mots qui leur donnaient envie de voyager. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour un historien d'art, Stendhal, parmi tous les écrivains qui ont écrit sur l'art? Pourquoi Stendhal, comme ça, à cause de ce syndrome, se place
non,
tout en haut?
Disons que Stendhal est quand même à l'origine de l'histoire de l'art contemporaine, moderne. Il y a toujours eu de l'histoire de l'art depuis la plus haute antiquité. On a commenté, cherché les siècles passés, les artistes contemporains, ce que fait Vasari. D'ailleurs, il parle des artistes anciens,
Giorgio Vasari,
et des artistes contemporains. Au XVIIIe siècle, Diderot parle des artistes, mais Stendhal parle de sentiments devant l'œuvre d'art. Et il a cette émotion que nous avons encore aujourd'hui. Pour nous, l'art est émotion. Et c'est quand même Stendhal qui est un peu à l'origine de l'avoir dit. Je pense que l'art a toujours été émotion pour l'être humain, mais il l'a pas théorisé parce qu'il l'a exprimé. Ce qui est encore mieux que théoriser, évidemment.
Exprimé, oui, on l'a vu par cette description où il défaille, il tremble, il est...
Tout à fait romantique, mais c'était la même époque que Joséphine de Beauharnais avait des évanouissements devant les œuvres du passé gothique français, dans le jardin des monuments français.
Et la comtesse de Noailles, ouvrant ses fenêtres sur Venise, il y a trop de beauté,
oui.
Et on fera ses valises et s'en ira.
Oui, c'est voir et ressentir, c'est ce que vous citiez tout à l'heure. Et vous parliez de romantisme. Je crois que dans mon album, il y a un romantisme que j'assume complètement et qui est cette conscience de soi dans la nature. Vous en parlez sans doute mieux que moi, mais cette recherche de la singularité, notamment dans la nature. En fait, moi, je cherchais ça, en tout cas. Je me suis
rendu compte. Oui, c'est pour ça que votre album est fascinant, parce qu'on dit, est-ce qu'elle va le trouver? Parce qu'on le lit avec passion, en fait. Et en plus, on est très choqués à travers vous, parce qu'on se dit, mon Dieu, la voilà devant Caravage. Que va-t-elle dire? Elle dit, mais
oui, parce que c'est
de
violent,
violence dans cette peinture.
Oui, et que de beauté. Et quel mystère. Et c'était fabuleux d'être enveloppé par ce mystère, en fait. Et c'est vrai que j'avais en tête cette expression du clair-obscur. Quand on parle du Caravage, on parle du clair-obscur. Pour moi, le clair, c'était sortir des ténèbres. L'obscur, c'était le 7 janvier, finalement.
Et l'obscurantisme.
Voilà, exactement. Enfin, je faisais des associations comme ça. Je rêvais devant le Caravage. Je réinterprétais ces expressions d'historien d'art.
Remarquer la lumière dans toutes ces œuvres sombres.
Et d'ailleurs, je trouve qu'il est beaucoup question de lumière dans votre livre. C'est ce qui m'a beaucoup intéressée, parce que je crois que je la cherche aussi, la lumière, dans mon bouquin. Et c'est vrai, quand on est face à un Caravage, on se demande d'où vient la lumière. Que ce soit les Caravages de Rome ou ou la diseuse de Bonaventure au Louvre. D'où vient la lumière? Et c'est une question qu'on peut se poser... à tout moment, n'importe quand.
En fait, ces deux livres parlent de révélation.
Exactement,
oui.
Tout à fait, d'éblouissement.
Et même quand vous racontez cette découverte de ce cri de Brandino, ça commence par un rayon de soleil, enfin une lumière sur
le lira,
sur le pied, voilà, sur l'orteil. Et ça m'a fait penser justement à cette lumière, oui, qui vient sur le Caravage au Louvre, quand je découvre ce tableau au Louvre. Le Louvre est plongé dans l'obscurité et je vois ce Caravage qui est baigné dans la lumière. Et ça m'a fait penser à une conversation que j'avais eue avec un autre écrivain, Yannick Enel, parce que j'avais lu ça dans un livre qui s'appelle « Je cherche l'Italie ». J'avais lu son livre parce qu'il s'appelait, encore une histoire de titre et de nom, « Je cherche l'Italie ». Et il racontait dans ce livre qu'il avait été à Florence voir les fresques de Frangelico et qu'il y avait une coupure d'électricité dans le musée. Donc il avait vu juste la lumière naturelle posée sur l'Annonciation et que cette lumière naturelle passait entre les... dans le jardin. Enfin, c'est fabuleux parce que c'est comme si la lumière venait, comme si Frangelico avait créé l'œuvre pour que la lumière vienne rentrer.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation?
Il ne faudrait pas allumer dans les musées, il faudrait laisser l'ambiance naturelle. Oui. Bon, enfin, bon, c'est évidemment pas pensable, mais c'est vrai que moi, s'il n'y avait pas eu, avec cet ami, quand nous étions dans le musée de Nice, s'il n'y avait pas eu ce rayon naturel, on n'aurait pas eu la révélation du tableau de Pondino.
En fait, on parlait d'éblouissant, vous êtes des romantiques tous les deux.
C'est ça,
la nature, l'art, la nature éclairant l'art, la nature imitant l'art, presque, on est presque chez Oscar Wilde. Alors, Philippe Costamagné, il y a un chapitre de votre livre qui revient sur le développement du goût pour les beaux-arts en France au fil des siècles, et par exemple sur la tradition des salons de peinture et des comptes rendus d'exposition par des écrivains. Diderot, Baudelaire, vous auriez pu aussi citer Octave Mirbeau, l'auteur du Jardin des Supplices, qui écrivit de nombreux articles de critiques d'art aussi dans la presse. Est-ce que les écrivains, je m'adresse à vous Philippe Costamagné, finalement n'ont pas joué le rôle de relais dans la transmission des œuvres à une époque où l'image n'était pas aussi reproductible et diffusée que de nos jours?
Oui, certainement, parce que les gens qui n'étaient pas à Paris, qui ne pouvaient pas aller eux-mêmes au salon, même il y a une double lecture, disons, quand Diderot ou quand raconte les salons, il y a un côté mondain, parisien, mais il y a un côté aussi ce qui permet et il fallait le talent d'Hydro évidemment pour décrire, de vivre ce qui se passait vraiment à Paris. Et donc de pouvoir s'imaginer cette peinture, et même pour les peintres
contemporains,
ça pouvait les influencer. Et en plus, il influençait le goût, évidemment, parce que l'appréciation de ces personnes était vraiment donner le ton et donner le goût.
Mais en termes de jeu de mots, de description, d'ekphrasis, hein, on le disait tout à l'heure, donc le mot consacré, le mot antique pour parler de la description d'une œuvre d'art, finalement, la littérature, c'est l'un des meilleurs véhicules pour parler d'art, pour dire un tableau.
Oui. Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire un livre en parlant de tableaux sans les reproduire. D'ailleurs, c'est un exercice assez amusant, parce qu'en tant qu'historien d'art, on a l'habitude, on a une photographie, on part dans notre théorie plus ou moins profonde. Mais en fait, dans le cadre de cet ouvrage, qui s'adresse en fait à un public plutôt large, pour connaître un métier.
Histoire d'œil. Hein.
Histoire d'œil. J'ai fait l'effort de décrire des œuvres, et je dois dire c'est extrêmement agréable. Et finalement, je pense, même quand on le lit, ça c'est à vous à me le dire, qu'on s'imagine les œuvres. Et peut-être c'est pas plus mal d'imaginer une œuvre, même si elle est un peu différente.
Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Meurice?
Oui, c'est vrai, ça me fait penser au bandeau qui accompagne votre livre. On voit le Christ, mais on n'en voit pas les pieds. Alors que dans votre livre,
voilà.
Dans votre livre, on a la réponse, on a l'image, en fait.
Et on les imagine.
Et exactement, on se contente de ça, oui.
J'ai pensé à lire vos deux livres, vous la citiez d'ailleurs, à cette phrase de Dostoïevski dans L'Idiot, un texte de 1868, qui est devenu maintenant même un slogan pour street artiste, à cette phrase « La beauté sauvera le monde ». Vous la citez, Catherine Meurice. Est-ce à dire que pour vous, l'art a une valeur existentielle, une sorte de même messianique, de réenchantement du monde, peut-être même une valeur politique? Quand on dit la beauté sauvera le monde, quand même, on est dans autre chose que la contemplation.
Oui, c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit cette phrase, cette grandiloquence m'allait, j'avais besoin de ça, pour être tirée vers le haut. Mais non, mais je crois que l'art me sert surtout de traducteur, en fait, de traduire le monde, tout simplement, de l'enrichir, de lui donner du sens. C'est aussi, je crois, le sens de la citation que je mets en exergue de ma bande dessinée, qui est de Nietzsche. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est vrai qu'au moment où j'ai écrit cette citation, le mot vérité pour moi était synonyme de réalité, donc de 7 janvier, de l'horreur. Et puis finalement, la vérité, au fil de mon bouquin, ça peut être une vérité intérieure, ça peut être autre chose. En tout cas, j'ai toujours besoin de l'art comme un filtre, une protection, un voile qui va pas complètement masquer la réalité, mais
grille de lecture.
Voilà, enrichir le réel et me protéger aussi de cette violence du réel.
C'est une valeur que vous partagez, Philippe Costamagna, le côté voir le monde finalement à travers les œuvres d'art, lire le monde à travers les œuvres d'art.
Mais nous, on a cette chance d'abord, donc c'est formidable et on a une vie formidable. Je pense pour tout le monde, le fait de vivre, de voir l'art en règle générale, mais toute forme d'art, hein, la musique, la littérature, permet de tout supporter et surtout d'être positif, parce que c'est très important d'être positif. Et l'art est vraiment un outil formidable pour ça.
On va continuer avec vous, Catherine Meurice, et se mettre en condition de retrouver la légèreté. C'est le titre de l'album que vous publiez chez Dargo. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi, on parlait de musique avec vous, Philippe Costamagna, Jean-Sébastien Bach, l'ouverture de la Passion selon Saint Jean, Er unser Herrscher, et c'est sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Jean-Sébastien Bach, La Passion selon Saint Jean, c'est l'ouverture. Herr unser Herrscher, sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. C'est le choix de Catherine Meurice. Elle publie La Légèreté chez Dargo. Pourquoi ce choix musical, Catherine Meurice?
Alors Bach, il m'accompagne depuis longtemps, mais La Passion selon Saint Jean, je l'ai découverte il y a un peu plus de 10 ans quand j'étais étudiante aux Arts Déco. J'avais un ami qui était musicien, oboïste au Conservatoire de Paris. Et il m'avait fait venir à une répétition, une masterclass de Kurt Masur. Et j'avais assisté à une répétition de l'orchestre des étudiants dirigé par Kurt Masur. Et j'avais découvert cette passion. Selon Saint-Jean, j'avais été complètement submergée. C'était magnifique. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est que comme c'était une répétition, j'avais entendu des interruptions, des certains instruments qui jouaient séparément, le chœur qui s'interrompait. C'était une séance de travail. Et chaque fragment de l'œuvre était magnifique. Même sans
coordination.
C'était magnifique, je me souviens de ça. Et en plus, j'associe ça au dessin, puisque je croquais, je dessinais les instrumentistes, les concertistes, et c'était un moment de grâce.
Ouais. Vous dessinez en musique, quand vous travaillez, elle est là, la musique ?
Oui, elle est là, pas quand je dois chercher des idées, là j'ai besoin de silence, mais quand je dessine ou quand j'ancre, souvent j'écoute de la musique ancienne, notamment Bach et Handel. J'ai dû faire Le Pont des Arts et Mes Hommes de Lettres sur tous les opéras de Handel que je connais par cœur. Voilà, Falvetti, Vivaldi, Monteverdi, tous ces noms.
Toujours l'Italie,
n'est-ce pas ? Toujours l'Italie.
Et la musique baroque,
oui.
Alors Catherine Meurice, vous êtes, je le rappelais, un diplômé de l'école Estienne et des arts décoratifs, mais vous avez rejoint l'équipe de Charlie Hebdo en 2005. Vos activités se sont partagées entre le dessin de presse et l'illustration jeunesse. Il y a eu Mes Hommes de Lettres en 2008 qui revisitait l'histoire de la littérature en dessin, ou Le Pont des Arts en 2012 qui interrogeait les liens entre peinture et littérature avec toujours ce ton mordant, inspirant qui vous caractérise. Le matin du 7 janvier, c'est le propos de votre nouvel album, La Légèreté, du 7 janvier 2015. Vous êtes en retard à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Ce retard vous a probablement sauvé la vie. Dans La Légèreté, vous racontez les mois qui ont suivi, vous racontez cette journée déjà, puis les mois qui ont suivi les attentats. Et finalement, votre quête d'une résurrection d'une mémoire d'abord que vous aviez perdue et puis de ce qui vous attachait à la vie par la médiation des œuvres d'art et de la beauté. Hein. Vous dites, je cherchais la beauté comme un antidote à l'horreur pour retrouver cette légèreté perdue. Donc le mot arrive à la dernière page de cet album. C'est un voyage plein de puissance et très sensible aussi à travers les arts qui est restitué en 136 planches, qui explore d'ailleurs différentes techniques graphiques et qui nous emmène du Paris traumatisé de janvier 2015 à la Villa Médicis à Rome, en passant par Cabourg, Balbec, de Proust, Proust qui est très très important pour vous. Comment on qualifierait le livre ? Est-ce qu'on doit parler de bande dessinée, de roman graphique, d'autre chose ?
Non, c'est une bande dessinée, vraiment. Oui, il n'y a pas de cases. De toute façon, il n'y en a jamais eu dans mes albums. J'ai du mal avec les cases, avec les petites boîtes fermées. Non, c'est un album de bande dessinée. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, plus que le dessin de presse que j'ai délaissé depuis l'attentat, parce que je n'y trouve plus de sens à faire ce genre de dessin pour Charlie Hebdo. Mais,
Parce que vous avez besoin de mettre l'époque à distance ou...
Il y a ça, et puis aussi, je me suis rendu compte que ce genre de dessin de presse, je le faisais pour l'équipe d'avant, celle qui était décimée, et je le faisais avec eux. Et j'aimais les faire rire, j'aimais qu'ils me fassent rire. Et vraiment, le 16 janvier, une partie de moi était abattue avec eux. Et c'est une partie de ma jeunesse, vraiment. Donc, tout ça est mis sous cloche. Je veux garder intact ces 10 ans avec ces génies du dessin de presse. Et je continue ma route et ça passera par la bande dessinée, oui.
Alors, je vous demandais en fait comment caractériser cet album, parce que traditionnellement, on dit que la bande dessinée, même si on l'appelle 9e art maintenant, mais c'était un mauvais genre. Il y avait un côté rebelle par rapport à l'ordre établi. Et dans La Légèreté, au contraire, La Légèreté, c'est un très bel objet qui est assez à contre-courant par rapport à l'image qu'on se fait parfois de la bande dessinée, même si l'image a changé, car elle est totalement... je vais pas dire agenouillé devant la beauté, pour parler comme Baudelaire, mais devant la haute culture, les grandes œuvres du passé, c'est assez rare.
Mais c'est-à-dire que depuis que je fais de la bande dessinée, ça doit faire peut-être 10 ans, je ne me suis jamais vraiment posé la question de la bande dessinée. C'est vrai que ma culture, c'est plutôt celle du dessin de presse, de l'illustration, de la peinture, de la littérature. Et c'est vrai que mes bandes dessinées, je crois qu'on voit dedans que je suis au départ dessinatrice de presse. Et mon dessin de presse a nourri mes bandes dessinées. Et mes bandes dessinées nourrissaient aussi mon dessin de presse. Mais... Oui, je crois que je ne m'intéresse pas vraiment aux codes. Alors, il faut évidemment respecter certains codes quand on fait de la bande dessinée pour que le livre soit lisible, mais je me préoccupe surtout du récit, des émotions que je peux faire passer. C'est ça qui m'importe, en fait, de partager. Passer un bon moment. Déjà, dans mes livres, je convoque les personnes que j'aime beaucoup, alors ça, de Stendhal à Proust, mais aussi des vivants, les pensionnaires de la villa ou d'autres amis. Pour moi, le dessin est vraiment une amitié, en fait.
Ce qui est passionnant, c'est cette quête de la passion. Moi, c'est ce que j'ai surtout retenu, en dehors du drame à l'origine du livre, mais c'est cette quête de la passion qui est formidable, c'est cette quête de la passion qui permet de vous sauver, enfin, de l'inimaginable.
Oui, mais c'est sûr. Enfin, derrière passion, je mets le mot amour aussi. Oui. Et c'est vrai que le 7 janvier.
On peut mettre souffrance aussi.
Oui.
On peut
oui,
parler
vrai,
de crucifixion vrai, tout ouais. à l'heure avec vous, Philippe Costamagna. Vous mettiez ce sens-là dans passion ?
Non, non, je mettais vraiment dans le sens de la passion de, artistique, en fait, de la passion culturelle. Mais c'est étonnant de voir, en lisant cet album, de voir ce besoin, cette recherche, pas d'un absolu, mais d'une. De
alors,
la beauté.
Alors, vous avez raison, d'ailleurs, puisque je pensais, en vous lisant, d'ailleurs, tous les deux, à Hippias Majeur, texte de Platon, des dialogues platoniciens, où Socrate tourne en dérision Hippias, qui affirme que le beau, c'est une belle jeune fille. Et Socrate lui répond, et le beau, c'est une belle marmite. Ça pourrait être d'ailleurs chez vous, Catherine Meurice. Et il souligne que le beau ne réside pas dans la multiplication d'exemples, mais qu'il s'agit d'une entité supérieure, d'une idée, d'un principe. Et c'est ce qui est intéressant avec vos deux livres, parce que vous semblez tous les deux, d'ailleurs, sacrifiés à cette doctrine antique qui voudrait que la beauté ne soit pas une notion abstraite, mais qu'elle soit associée à un certain nombre de vertus. La beauté, c'est aussi le bien, c'est aussi le bon. C'est très, quand on vous lit, Catherine Meurice, vous citez Baudelaire, hein, la beauté présentée comme un idéal hors d'atteinte, pétrifiant. Vous citez élévation aussi à plusieurs reprises. On a, comme le disait Philippe Costamagna, l'impression que vous souscrivez à une vision extrêmement idéaliste de la beauté. C'est pas uniquement plastique, quoi. Il y a quelque chose en plus, quelque chose de l'ordre de l'au-delà.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est maintenant qu'on me parle de ce livre que je dois formuler, que je dois préciser ma pensée et qu'effectivement, oui, il s'agit de cela. Vous parliez de langage tout à l'heure. Oui, c'est vrai que le 7 janvier a tellement... c'était une plongée dans le néant, en fait. Donc, il a fallu repartir à la recherche de tout et d'un absolu. Et je mets le mot beauté. Oui, derrière ce mot beauté, il y a plein de choses. Ce n'est pas que la beauté artistique, plastique, bien sûr. Mais je n'y ai pas réfléchi, en fait, quand je faisais le livre. C'est maintenant que,
alors,
que vous m'y faites penser.
Je voudrais que vous nous décriviez, parce qu'on ne peut pas lire de la bande dessinée. Hein. Traditionnellement, je fais lire une page à nos invités, mais là, il y a les dessins. Je voudrais que vous nous décriviez un peu votre personnage. Enfin, vous arrivez à la Villa Médicis, vous vous promenez dans Rome, avec Stendhal, hein, d'ailleurs. Parce qu'on voit, on vous voit aux côtés de Stendhal. Stendhal est votre guide, ce qui est quand même l'un des...
Une arrivée très triste, la Villa Médicis, parce qu'il pleut.
Oui,
exactement.
Je m'attendais à être baigné de lumière et que je pensais que cette lumière allait me sauver automatiquement. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Et je suis arrivée sous la pluie, oui, quelques jours après les attentats du 13 novembre d'ailleurs. Et j'arrive et la première visite qu'on me fait de la villa, c'est la visite des jardins, du parc. Mmh. Et dans ces jardins, il y a une scène de massacre, tout simplement, qui s'appelle les Niobides. Et en arrivant à Rome, voilà, je ne pensais pas que les massacres me hanteraient de cette manière. Ouais. Et entreraient en moi de cette manière aussi. Et je les ai retrouvés à travers la sculpture et le passage que vous vouliez que je commente. C'est une visite au Palazzo Massimo. Où je me balade au musée en rêvant, donc en ayant tout oublié de l'histoire de l'art, et je me retrouve parmi des marbres magnifiques et je me rends compte que je suis attirée par les sculptures démembrées, mutilées, et je n'y vois que des victimes. Et j'ai l'impression que ce sont les victimes des attentats. J'ai l'impression de voir mes amis morts que je n'ai pas vus pendant le 7.
Vous pouvez citer quelques.
Oui, oui. Et c'est vrai que alors je vois ces statues et je regarde toujours les œuvres avant de lire le cartel. Et j'ai l'impression de voir par exemple une malheureuse suppliciée se contorsionnant. Et puis finalement, quand je regarde de près le cartel, il s'agit d'une danseuse. Ou alors j'ai l'impression de voir une jeune décapitée parce qu'on voit juste le buste, une tête. Et finalement non, c'est une femme endormie. Donc je confonds voilà le sommeil avec la mort. J'ai l'impression de voir une femme, une sculpture, une statue dressée face au tueur. Et finalement, non, c'est un corps de déesse magnifique. Et je me trompais, en fait, je confondais à chaque fois les massacres du 7 janvier et du 13 novembre avec là.
Oui, les œuvres d'art que vous voyez sont relues par cette fiction intime, en fait,
exactement,
que vous avez vécue. En fait.
Exactement. Ouais. Et c'est vrai que je me retrouve voilà, dans cette salle peuplée de marbre et finalement, plutôt que de me retrouver dans un lieu sordide, dans un cimetière, je suis entourée de beauté finalement, et je vois ces corps magnifiques de marbre blanc scintillant qui me rappellent mes amis. Et je crois que c'est une façon, voilà, de circonscrire la violence et de lui donner les contours d'un univers, en fait, pour retraverser cette souffrance et en sortir un peu apaisé.
La beauté comme antidote à l'horreur, dites-vous, l'humour aussi peut-être, parce que c'est pas formulé directement dans la bande dessinée, mais l'humour apparaît vraiment comme un, si je veux utiliser un mot pompeux, mais un ethos existentiel, une sorte d'éthique. Il faut rire, il faut garder ça comme une façon d'être au monde qui est indissociable, de toute façon, de votre regard, puisque Catherine Meurice, c'est toujours très mordant. Est-ce que vous diriez que l'humour est complémentaire de la relation à l'art? Il y a l'art qui idéalise, finalement, et l'humour qui vient désacraliser, en fait, ce que l'œil voit.
Oui, après, quand vous dites « il faut rire », je n'avais pas cette injonction en tête, en fait. Mais de fait, l'humour était là, même abîmé, même fatigué, il était là. Mais l'humour me sert, oui, à désacraliser les œuvres d'art, mais non pas pour les ridiculiser, les tourner en dérision, mais pour les faire entrer dans notre vie, en fait. Hein, parce que, voilà, moi, je mélange l'art et la vie, et on a besoin d'art pour vivre, pour être heureux. Et oui, donc l'humour était là. Étrangement, même dès le 7, en fait. Enfin, ça peut être choquant de dire ça, mais je me souviens qu'avec mon comparse Luz, notamment, on passait de l'effondrement aux larmes. On riait notamment en revoyant les dessins de nos copains tués, parce qu'on ne peut pas ne pas éclater de rire en regardant des dessins de Charb ou de Cabu et des autres. Et ce rire était suivi de larmes. Enfin, c'était un état extrêmement étrange. Oui, donc c'était épuisant d'ailleurs. Donc j'ai cherché peut-être à recharger des batteries en allant trouver ce face-à-face avec l'art.
Oui, parce qu'il faut bien préciser pour les auditeurs que la particularité aussi de cette légèreté, c'est que vous dessinez les œuvres d'art que vous voyez. C'est-à-dire qu'on est soudain face à un Caravage ou le cri de Munch ou ces statues antiques, hein, Niobe, dont on parlait à l'instant. Elles sont dessinées très précisément, en contraste total d'ailleurs avec le personnage qui est très très stylisé. Est-ce que cette reproduction de tableaux classiques, de statues dans votre album, est-ce que cela faisait partie de l'exercice littéraire, une sorte de copie de l'ancien pour cultiver un goût, tenter un sauvetage, parce que vous parlez d'ailleurs de sauvetage, hein, devant le radeau de la Méduse que vous allez voir au Louvre, en vous disant, mais moi je suis où dans le tableau?
C'est Sigolène, voilà, Vincent, c'est Sigolène, ouais. C'est mon ami, ouais. Une amie qui est rescapée, qui se cherche dans le tableau, parce qu'on... Oui.
Mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce recopiage de l'ancien, presque travail qu'on peut faire dans les écoles de Beaux-Arts, de recopier l'œuvre, est-ce qu'il y avait aussi tentative de rapatrier une mémoire disparue,
de reconnaissance,
former un goût aussi.
De reconnaissance, tout simplement. Oui, c'est vrai que dans le livre de Philippe, il est question aussi de découverte, de connaissance et de reconnaissance. Et en plus, bon, c'est un exercice très intéressant pour un dessinateur, hein, de copier...
Reconnaissance, est-ce que vous pouvez expliquer
ça? C'est-à-dire qu'en dessinant... déjà, je me sers des œuvres d'art, que ce soit le cri... de Munch ou des statues antiques, je les dessine, je m'en sers pour, ça sert ma narration et ça me sert moi aussi à m'exprimer. Par exemple, le cri me sert en dessinant le cri et en me dessinant en train d'entrer dans ce tableau, eh bien, le cri me sert à exprimer littéralement ce que je ne pouvais pas exprimer, qui est l'effroi. Les statues antiques me permettent d'exprimer, bon, ce que je disais tout à l'heure, m'approcher de la mort d'une façon plus adoucie. Quand je suis face au Caravage, c'est pareil, je suis face à ce mystère et je me représente face à ce mystère pour être au monde, en fait, parce que le mystère du monde il est bien tel qu'il est, il faut qu'il reste mystérieux, on a besoin, je crois, de cette...
Mais en plus, vous avez choisi le tableau le plus violent de Caravage, c'est-à-dire la Judith au moment où elle coupe la tête d'Holoferne avec un jet de sang.
Oui, c'est ça.
Et quand le choix est effrayant.
Et quand je me balade à la Villa Borghese, il y a une page où je suis dans tous les tableaux, en fait. Je suis vraiment dans tous les tableaux, bon, ce qui crée aussi du comique, c'est-à-dire que... voilà,
un jeu graphique.
Il y a un jeu graphique où je suis...
la petite femme blonde, je la voyais blonde.
Non, là, elle a une frange et les cheveux comme des baguettes de tambour. Mais voilà, en tout cas, on parlait de reconnaissance, c'est en fait, face à l'art, on se reconnaît, on se retrouve. L'art parle de nous.
Et justement, ce qui est fou, c'est que vous êtes quelqu'un de littéraire, hein, vous aimez lire, vous avez célébré les écrivains à travers d'autres albums. Proust est très important pour vous, vous l'appelez votre auxiliaire de vie. Et en fait, dans l'album, une amie vous organise un voyage à Cabourg en se disant « Proust, ça va peut-être, en plus la mémoire est perdue, donc on est totalement dans le sujet ». Et ce voyage à Cabourg, finalement, ne peut rien, rien ne se passe. Vous dites, Catherine Meurice, d'habitude, quand je pense à Proust, mon épiderme, ma tête et mon cœur réagissent. Je pars illico en voyage dans son œuvre et en moi-même, car être lecteur de Proust, c'est être lecteur de soi. Là, il ne se passe rien. Mon imaginaire est bloqué. Et c'est l'art qui débloquera ça. Qu'a-t-il de plus fort que la littérature, au fond? Qu'est-ce que l'œuvre d'art a de plus fort que la littérature? Pourquoi l'art a réussi là où la littérature a échoué? Voilà.
Est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Allez-y, Philippe.
Sinon, je vais répondre.
Parce que ah bon, je vais... À la place de Catherine Meurice.
Ah oui, mais il va m'aider.
Non, je vais... C'est parce que c'est une grande aventure, une grande histoire de l'art qu'on défend et qu'on appelle le paragone. C'est-à-dire la comparaison entre peinture et littérature. Et bon, évidemment, c'était Pétrarque qui disait que la littérature était supérieure à la peinture parce qu'il avait demandé à Simone Martini, un peintre siennois qui se trouvait en Avignon comme lui, de faire un portrait de Laura. Et il a répondu, voilà, mon cher Simone, tu es incapable de donner la vie à Laura, tandis que moi, avec les mots, je peux transfuire l'amour. Et après, il y a eu une réponse, et la réponse n'a pas été donnée par les moines, c'est-à-dire par Léonard de Vinci, qui, travaillé par le problème du paragone, a fait sourire la Joconde et lui a donné la vie. Ouais. Donc voilà pourquoi la Joconde est le tableau le plus célèbre du monde, parce que c'est le côté supérieur de la peinture sur la littérature.
C'est le tableau qui a gagné.
C'est le tableau qui a gagné.
Très bien.
Dans ce paragone-là.
Dans ce paragone-là. Il y en a d'autres, des paragones. Il y en a beaucoup dans votre livre, Philippe Costamagna. On va poursuivre avec vous cette émission sur la littérature et l'art. Vous publiez chez Grasset Histoire d'œil, puisque vous êtes un œil, donc c'est une de ces 10 ou 15 personnes dans le monde.
Il y en a beaucoup plus.
Beaucoup plus, quoi. 50, 100.
Une grande centaine.
Une grande centaine, voilà, dans le monde, qui sont capables d'un regard, d'un éblouissement, d'attribuer un tableau à tel ou tel peintre. On continue avec vous. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Francis Poulenc, et c'est interprété par Jesse Norman, Les chemins de l'amour. Francis Poulenc, Les chemins de l'amour, c'est interprété par Jesse Norman, c'est le choix musical de Philippe Costamagna, il publie Histoire d'œil au pluriel, œil c'est chez Grasset. Pourquoi ce choix musical, Philippe Costamagna?
Parce que ça a été une révélation aussi pour moi.
Encore, oui. Éblouissement.
Éblouissement, c'était au mai florentin en 1983. J'avais un abonnement au Lodgione, c'est-à-dire en haut, et il y avait Jesse Norman qui venait chanter Poulenc du Parc Satie. Je ne savais pas qui était Jesse Norman. Et visiblement, personne ne savait qui était Jesse Norman parce que cet énorme théâtre de Florence était au quart vide. Enfin, au quart plein, pardon. C'est aux trois quarts vide. Et ça a été extraordinaire. Mais à un moment où tout le monde a été ému, elle a chanté Poulenc, j'en suis encore ému même en repensant. Et ça a été un moment, d'ailleurs je l'ai rencontré plus tard dans ma vie, et elle m'a dit que ça a été pour elle un des plus beaux moments de sa carrière aussi. Un théâtre vide, mais un public
fervent, conquis. Fervent. Alors Philippe Costamagna, vous êtes donc le directeur du Palais Fesch, le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Vous êtes historien d'art, spécialiste de la peinture florentine du XVIe siècle. Mais dans ce livre, Histoire d'œil, vous décrivez une profession méconnue qui est la vôtre, que vous exercez depuis une trentaine d'années, la profession d'œil. Vous êtes un œil, comme il y a des nez en parfumerie. Alors en parfumerie, on est spécialisé dans l'analyse et la reconnaissance des parfums, des odeurs. Eh bien l'œil, il est spécialisé, lui, exercé à la reconnaissance des techniques picturales à partir de l'étude des matériaux utilisés, des couleurs, du dessin, de la touche du peintre. L'œil va chercher à attribuer un tableau. Voilà, un tableau comme il s'est produit il y a quelques semaines avec cette histoire du...
On parlait
du Caravage retrouvé sous les combles d'une maison de Toulouse. Et comme la valeur des œuvres sur le marché de l'art dépend en grande partie du nom de l'artiste qui leur est associé, évidemment, on comprend les enjeux qui gravitent autour de vos activités, Philippe Costamagna. Alors, le livre Histoire d'œil, très très beau titre, hein, on l'a dit, qui n'est pas un hommage à Bataille, c'est pas seulement un récit sur la formation de l'historien d'art à cette science de l'attribution des œuvres, mais c'est un regard aussi qui est offert au lecteur sur les coulisses de ce monde fermé, plein d'érudition, d'anecdotes aussi, et où la littérature n'est jamais loin. Alors vous revenez dans ce livre, Philippe Costamagna, sur l'une de vos grandes découvertes, et je voudrais qu'on vous entende lire, un Bronzino dans le musée des Beaux-Arts de Nice. Alors ce tableau était là, posé là, il était attribué à quelqu'un de beaucoup moins fameux que Bronzino. Et c'est l'éblouissement, hein. C'est un mot que vous avez utilisé 4 ou 5 fois déjà dans cette émission. Je voudrais qu'on vous écoute lire.
Je suis œil, je ne suis pas acteur. Vous m'excuserez.
Mais bien sûr.
Attendez, on va remettre bien les lunettes. Voilà. Le soleil, souvent présent dans la baie de Nice, était haut dans le ciel ce jour-là et laissait pénétrer ses rayons dans la galerie selon un angle aigu. Je me souviens que nous bavardions, tout en jetant un œil distrait aux collections, de toute autre chose, bien sûr. Peut-être du tableau que nous allions voir le lendemain, quand nos yeux se sont arrêtés sur un Christ accroché au bout du couloir, au pied desquels tombait un rayon de soleil qui faisait reluire des ongles à la texture porcelainée, que je reconnaîtrais entre 1000. « Tu vois ce que je vois ?» m'a demandé Carlo. Le bavardage a laissé place à un silence époustouflé. « Nous voyons bien la même chose. » À la faveur de ce rayon de soleil providentiel, s'est révélé le Christ en croix de Bronzino, peint par l'artiste à l'intention d'une famille florentine, les Panciati, qui vers 1540. Une œuvre jusqu'alors perdue et vainement recherchée des connaisseurs de la peinture florentine de cette époque.
Merci Philippe Costamagna. Donc c'est le récit de l'éblouissement que vous avez au musée des Beaux-Arts de Nice devant un tableau dans lequel Catherine Meurice en parlait à l'orée de cette émission. Vous reconnaissez par l'éclat de la lumière sur un ongle du Christ, que c'est un Bronzino. C'est aussi immédiat que ça.
En fait, on le voyait pas le tableau. On marchait dans cette galerie tous les deux, et c'est vrai qu'il y a un rayon
avec un
de soleil,
ami qui est œil aussi,
qui est œil aussi, oui, qui voilà. Est spécialiste de la même chose.
Deux œils.
Deux œils. On connaît tous les deux spécialistes de Bronzino, ce qui est normal qu'on soit ensemble de temps en temps. Et à un moment, il y a ce rayon de soleil. Peut-être on a regardé d'abord le rayon de soleil. Où est-ce qu'arrivait le rayon de soleil? On a vu effectivement ses ongles de pied. Et on s'est regardé, on a reconnu les ongles de pied que seul Bronzino pouvait peindre.
C'est-à-dire que. Mais alors comment on arrive? Là, il faut. Parce que c'est pas juste un œil, une acuité de l'œil. C'est aussi toute une connaissance pour savoir. Pour connaître la manière précise et savoir même, d'ailleurs, que Bronzino, je me tourne vers Catherine Meurice, c'était capable, avait une manière très particulière à lui de faire les ongles, ça suppose aussi une énorme érudition, une énorme formation.
Effectivement, c'est en force, on connaît par cœur, parfaitement, tout l'artiste, toute la production de l'artiste, on le reconnaît, on sait comment il peint, on peut même, quand on rentre, quand on est spécialiste d'un artiste, on rentre dans sa manière, on sait avant lui comment va trouver l'œil, comment va être faite la touche de l'artiste, même l'invention de la pose. Et en fait, quelque part, ce tableau était perdu. On le connaissait uniquement par la description qu'en faisait Giorgio Vasari.
Vasari, il faut en dire un mot, hein, parce que pendant longtemps, en fait, les gens n'ont eu connaissance de la peinture qu'à travers les mots de Vasari, donc qui a écrit ce livre fameux qu'on peut lire encore. Hein,
au milieu du XVIe siècle, sur la vie des peintres et sculpteurs florentins, qui est une commande du grand-duc de Florence pour mettre en avant toute la peinture florentine. Et curieusement, Vasari n'aime pas Bronzino, parce que peut-être Bronzino, ils sont contemporains, et probablement Bronzino est un bien meilleur artiste que lui, parce que Vasari est aussi peintre. Et peut-être a aussi davantage la faveur du couple ducal, c'est-à-dire des Médicis. Et en fait, donc, il décrit ce tableau, mais il le décrit quand même comme une œuvre absolument extraordinaire, en disant c'est un Christ mort fait d'après un véritable cadavre. Et en fait, quand on a levé le regard, on a vu, entendu les mots de Vasari. Parce qu'après, on a vu ce Christ mort, qui est une figure absolument exceptionnelle, d'une grande pureté. Et on avait du mal à s'imaginer que Bronzino, qui était un peintre mondain, qui a fait les plus beaux portraits qui soient, des grands portraits de cour absolument extraordinaires, qui a fait des œuvres religieuses d'une grande beauté, mais d'une grande noblesse, avec des femmes somptueusement parées, pouvait faire une œuvre si simple. Mais nous, en fait, on le savait. Donc c'est notre connaissance qui a permis... Ben, évidemment, on a reconnu sa main, on a reconnu les ongles, mais c'est vrai qu'on avait une vraie connaissance de l'artiste.
Alors donc c'est une affaire de connaissance de l'artiste et aussi d'un éblouissement. Il n'empêche que Michel Laclotte, le fondateur du musée d'Orsay, le premier président du Grand Louvre, lui, il vous accuse de trop boire. C'est-à-dire que quand vous avez un éblouissement, il vous dit « Arrêtez de boire, Philippe, vous voyez n'importe quoi et vous agitez tout le monde avec vos délires ». Donc la profession d'œil est à risque quand même, on est parfois pris pour un fou.
Parce que Michel Laclotte, que j'estime énormément, avait lui-même vu le tableau et ne l'avait pas vu, n'avait pas vu Bronzino. Et Michel est un grand œil. Mais en fait, peut-être dans les 30 ans qui ont séparé le moment où lui l'a vu et nous l'avons vu, la connaissance de Bronzino a évolué. Et effectivement, eux, ils ont dû voir tous les tableaux après la guerre où il fallait recenser toutes les collections françaises et il est passé à côté.
Alors, une question brûle les lèvres depuis le début de cette émission. On parlait du Caravage avec Catherine Meurice. On a cru retrouver un Caravage il y a quelques semaines à Toulouse, dans les combles d'une maison toulousaine. Est-ce que, selon vous, c'est un vrai ?
Alors j'explique et je répète dans le livre qu'un œil ne peut pas s'exprimer quand il n'a pas vu directement une œuvre.
Vous n'allez pas le voir ?
Et je vais aller le voir, mais je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui.
Donc, quel dommage ! Quel dommage !
Donc peut-être j'ai une opinion, mais je veux la conforter en voyant l'œuvre.
Je reviens à Stendhal, Philippe Costamagna, que vous citez. Et donc j'ai cité tout à l'heure les propos de Stendhal que vous citiez. Je voudrais terminer, vous parler de Joséphine de Beauharnais, donc la première épouse de Napoléon, qui avait une sorte de syndrome de Stendhal aussi, puisqu'elle se pâmait des heures durant sous le directoire dans le musée des monuments français où se trouvaient rassemblés les vestiges des monuments gothiques et renaissants qui avaient été sauvés des destructions de la Révolution. Et vous écrivez, Philippe Costamagna, il n'est pas sûr que l'art suscitait ainsi l'émotion avant le 19e siècle. Il est certain qu'il ne la sollicita plus jamais aussi fortement. Le rapport entre art et émotion, ce serait donc fini, malgré Stendhal ?
Non. Non, non, non. Joséphine, dans les jardins des monuments français, c'est l'aboutissement des idées des Lumières, en fait. C'est la Révolution française, en fait. C'est, on arrive à cette chose extraordinaire qu'est la Révolution, et donc aussi à ces émotions extrêmes.
Vous parliez de Giorgio Vasari, donc l'auteur, enfin c'est un best-seller à l'époque, au XVIe siècle, hein, les vies des plus excellents peintres, sculpteurs, architectes.
Qui était un best-seller jusqu'au XIXe siècle.
Ce qu'on voit, c'est que le savoir et l'engouement pour l'art, en fait, à cette époque, ça passe avant tout par la littérature, par des textes comme celui de Vasari. Stendhal l'a lu, tous les écrivains l'ont lu aussi.
C'est oui, mais il n'y avait pas de reproduction, donc les œuvres étaient connues par la gravure et surtout par la littérature, ou par les voyages, d'où le grand tour, que ce soit dans les Anglais, les Français, les Allemands, aller en Italie pour découvrir l'Antiquité, Raphaël et Michel-Ange.
Quand ils sortaient de la jeunesse. Est-ce qu'on peut expliquer le phénomène que vous soulignez en mettant finalement en question le rapport entre art et émotion par le fait que l'art a un peu précisément déserté la littérature, grâce à Catherine Meurice. Aujourd'hui, on a un album de bande dessinée qui nous parle de l'art, mais en dehors de Quignard, par exemple, en dehors de Houellebecq dans La carte et le territoire et de quelques autres, c'est vrai que l'art est beaucoup moins présent qu'avant dans la littérature. Or, la littérature a été le véhicule de l'art.
Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on a toujours, on croise l'art dans la littérature. Il n'est jamais absent, ne serait-ce des visions, parfois des vues de la nature. Est-ce que c'est pas de l'art aussi? Mais je pense qu'on voit de l'art régulièrement.
Oui, mais il y a la phrase d'Oscar Wilde qui disait « Avant Turner, il n'y avait pas de brume à Londres ». C'est vrai que bon, là c'est pris à l'inverse, mais c'est l'art qui nous aide à percevoir la beauté du monde. C'est peut-être vrai encore chez quelques écrivains, mais on s'aperçoit en vous lisant que avant tout, et votre livre d'ailleurs en est un autre exemple, que c'est par les mots que l'art s'est souvent donné à voir avant d'être reproduit ou dessiné. Et au fond, est-ce que ce véhicule-là, qui était la littérature, n'est pas...
Oui, peut-être que l'écrivain n'a plus le besoin, ne sent pas le besoin de raconter, de décrire une œuvre d'art, à part Catherine. C'est une... Parce que les gens trouvent peut-être facilement recours à Google et à leur tablette pour voir l'œuvre d'art.
On n'a plus besoin des écrivains, finalement.
Quand même.
Pour l'art, pour vivre l'art.
Oui.
La peinture fait écrire, hein, on l'a vu, puisque la plupart des écrivains du 19e écrivaient sur l'art. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'en retour, l'écriture, finalement, permet la plus belle visibilité à la peinture?
Moi, je trouve, finalement, est-ce que la passion qu'on a d'une œuvre n'est pas mieux décrite que par la plume?
Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine?
Oui, la plume, et la plume de l'écrivain, et la plume du dessinateur de bande dessinée.
Aussi, il ne faut pas l'oublier. Avant de nous quitter, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que, puisque même si Catherine dessine certaines œuvres d'art, il y a quand même l'importance des mots aussi dans votre texte, des mots qui disent l'image. C'est votre cas aussi, Philippe Costamagna. Est-ce que vous considérez aussi vos livres comme ayant un autre but que de porter témoignage de votre métier, Philippe, et de ce traumatisme, Catherine Meurice? Témoignage, outre le témoignage, une sorte de portée éducative ou de transmission, en fait, de ce qu'est aussi la beauté de cet art et de peut-être ce qu'il peut apporter à l'être humain de plus qu'un spectacle.
En ce qui me concerne, je n'ai pas pensé au témoignage déjà quand j'ai commencé La Légèreté, et je n'ai pas pensé non plus à partager ce que je vivais. J'avais déjà, je souffrais de cette traversée. Enfin, j'ai voulu raconter cette traversée de l'hiver, hein, l'hiver 2015, qui a duré un an. Et j'ai d'abord dessiné pour me sauver. C'était une démarche très très personnelle, très égoïste aussi. Hein, mais bon,
il n'empêche que vous le publiez aujourd'hui.
Oui, c'est plusieurs mois après, c'est assez tard dans l'année 2015 que j'ai décidé d'en faire un livre. Parce que je me suis rendu compte que cette traversée là, de cette bulle intérieure, finalement, j'allais la percer. Et j'allais, comme je me reconstruisais dans ce livre, je pouvais de nouveau m'ouvrir aux autres. En fait, ce livre raconte comment je retrouve mon métier de dessinatrice, qui est de faire des livres. Donc ça ne pouvait être qu'un livre.
Alors on a bien compris avant dans l'intention, mais est-ce que maintenant qu'il est terminé, est-ce que vous aimeriez aussi que ce livre-là porte, non pas témoignage, mais porte finalement la valeur aussi que peut avoir, la valeur intime, la valeur de construction de soi, que porte l'art, que portent ces œuvres d'art que vous reproduisez? Vous passez quand même du temps à les reproduire, à les dessiner.
Je ne veux rien. Non, c'est au lecteur, c'est au lecteur de faire ce qu'il veut d'un livre. C'est vrai que j'avais plus cette intention-là dans mes livres précédents, Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, même Moderne Olympia, que j'avais publié il y a 2 ans, où il y avait un petit côté didactique. Je m'amusais avec tous ces grands auteurs et je disais au lecteur, regardez comment on s'amuse bien, venez vous marrer avec nous, quoi.
Parce que vous dites, quand les islamistes auront compris l'utilité de l'art, il y aura peut-être un musée aussi grand que le Louvre à Raqqa.
Oui,
donc
ça,
vous parlez d'utilité de l'art, quand même.
C'est mon roman romantisme qui parle. Même Stendhal me dit que vous êtes romantique. C'est n'importe quoi. Avant de faire un selfie avec sa perche à selfie.
Même Stendhal. Philippe Costamagna, il y a la formation, hein, vous, ce récit de formation d'œil, mais il y a aussi des pages très très émouvantes sur le petit garçon que vous étiez qui allait avec ses proches parents dans les musées. Il y a aussi tout un message de l'éducation au goût aussi, qu'il faut emmener les enfants au musée. Vous aimeriez aussi que ce livre peut-être suscite des vocations d'œil, mais avant tout donne envie de mettre des mots sur les images et peut-être des images sur les mots que vous utilisez.
Alors à la fois c'est une crainte quand j'ai écrit le livre. Bon, évidemment l'idée c'était de faire connaître un métier, mais la crainte est de dire mon Dieu, ce métier, est-ce qu'aujourd'hui est-ce que c'est un métier? Moi je l'ai vécu comme une passion formidable et je pense que c'est formidable d'avoir des passions comme ça quand on est jeune. Et effectivement il faut amener les enfants dans les musées, il faut, parce que c'est du bonheur pour eux. Et c'est un bonheur à laquelle après ils peuvent être habitués toute leur vie. Mais après on se dit bon, c'est pas des métiers dans lesquels où on peut faire fortune. C'est peut-être on pense pas à ça pour ses enfants, mais c'est quand même beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que j'avais ce côté un peu partagé en disant peut-être il faut pas pousser à avoir des vocations, mais c'est quand même formidable. L'art est tellement important pour...
Ça reste une fortune personnelle, en tout cas.
Voilà. Oui, absolument. C'est pour moi, ça dit. L'a été.
Stendhal aurait aimé Catherine Meurice. Voilà, il peut être fier de vous. Merci, merci à tous les deux. Merci Philippe Costamagna et Catherine Meurice d'avoir participé à cette émission sur l'art et la littérature. Je rappelle les titres de vos livres. La légèreté de Catherine Meurice, c'est chez Dargaud. Et Histoire d'œil de Philippe Costamagna, c'est chez Grasset. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
À bientôt. Vous, le temps des écrivains, pardon, c'est Avril Ventura, Charlotte Roux et à la technique Bruno Mourlon. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et sur Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. 7h avec Catherine Meurice, Philippe Costamagna, Bronzino et Stendhal. Merci encore à tous les deux. Je vous retrouve dès lundi pour une autre émission, Le Temps des libraires à 10h55.